France Culture.
À voix nue. Aujourd'hui, Mario Vargas Llosa s'entretient avec Gérard de Cortanze. Deuxième entretien.
Mario Vargas Llosa, nous avons parlé hier de votre enfance, le temps a passé. Lorsque vous arrivez à Paris, donc en 59, vous travaillez notamment à l'ORTF. Et là, vous allez rencontrer un certain nombre d'écrivains. J'aimerais bien que vous parliez de ces rencontres, notamment Borges, Neruda, Asturias. Comment sont passées ces
Il m'est arrivé
rencontres.
Quelque chose que je crois est arrivé à plusieurs écrivains latino-américains. C'est à Paris que j'ai découvert que j'étais un latino-américain. Jusqu'alors, je me sentais un péruvien, qui rêvait de devenir, du point de vue culturel, un Européen, hein, et peut-être même un Français. Je crois que c'était ça, secrètement, ce que j'aurais voulu être. À Paris, j'ai découvert que je n'étais pas un Européen, quoique j'étais très proche de l'Europe, et aussi que j'étais plus qu'un Péruvien, que j'appartenais à une communauté culturelle, à une famille culturelle, beaucoup plus large que le Pérou, qui avait un dénominateur commun, n'est-ce pas, avec les Pérous, et de laquelle j'ai fait partie. C'est à Paris que je suis commencé à lire la littérature latino-américaine par plaisir. Jusqu'alors, je l'avais lu seulement par obligation, hein, à l'université. Et j'ai découvert qu'il y avait une littérature latino-américaine très riche, très originelle, qui était en même temps une littérature créatrice de formes, de nouvelles formes d'écriture, très ambitieuse et très variée. En plus, Paris était une espèce de plaque tournante pour les écrivains latino-américains. Tous venaient ici, tous passaient ou habitaient à Paris. Et à ces moments-là, il y avait une espèce de découverte, n'est-ce pas, de la culture latino-américaine, en même temps que les latino-américaines découvraient aussi qu'ils savaient une littérature riche. Ça a été une époque formidable pour la littérature de langue espagnole. J'ai connu à Paris, par exemple, je crois que c'est le premier grand écrivain latino-américain que j'ai connu, à Julio Cortázar, qui habitait Paris depuis 1952. Il a été très gentil avec moi. Je l'admirais beaucoup comme écrivain. Et ici, j'ai appris aussi à l'aimer beaucoup comme personne, parce qu'il était très généreux. Il m'a beaucoup encouragé dans mes premiers écrits. Il a lu les manuscrits de La Ville et les Chiens et m'a donné, enfin, des paroles encourageantes. Il a essayé même de me trouver un éditeur pour les livres. Et grâce à lui, j'ai connu d'autres écrivains latino-américains. J'ai connu ici Carlos Fuentes, qui habitait pas Paris, mais qui venait souvent. J'ai connu Miguel Ángel Asturias, qui faisait de longs séjours à Paris. À l'époque, il était en exil. Il habitait dans un tout petit hôtel de la rue Messier-les-Princes. Il vivait très pauvrement. Hein. Je me souviens d'avoir vu Asturias en faisant le ménage, hein, dans son hôtel. J'ai lu, je l'ai connu comme écrivain, à García Márquez. J'avais un programme à la radio-télévision française qui s'appelait La littérature au jour le jour. Alors les maisons d'édition nous envoyaient des livres. Et un jour, Julliard nous envoyait un roman traduit de l'espagnol colombien, qui était pas de lettres pour le colonel. Et c'est comme ça que j'ai découvert García Márquez. C'est drôle parce que le premier livre de lui que j'ai lu, je l'ai lu en français. J'avais déjà lu aussi en français, c'est très curieux. Hein? J'avais lu Alejo Carpentier dans Les Temps modernes, la revue de Sartre, qui avait publié en deux numéros Chasse à l'homme. Et j'ai connu aussi Alejo Carpentier à Paris quand il est venu comme diplomate cubain. Alors, j'ai connu tous les grands écrivains de la Borges, littérature latino-américaine, et Borges, bien sûr, à qui j'ai dû interviewer pour la radio-télévision française. Je me souviens toujours de cet entretien. Je me souviens toujours que je l'ai demandé, une des questions était, qu'est-ce que vous pensez de la politique, monsieur Borges? Il m'a dit, es una de las formas del tedio. Hein. C'est une des formes de l'ennui. Hein. J'ai connu Neruda. J'avais une énorme admiration pour la poésie de Neruda que j'avais lu et j'avais appris par cœur beaucoup de poèmes. Il était un des mythes de mon enfance et mon adolescence. Et grâce à Jorge Edwards, l'écrivain chilien, qui habitait aussi Paris, et, enfin, avec qui j'étais devenu très ami, j'ai connu Neruda. Et je me souviens que j'étais tellement impressionné hein, avec les mythes vivants là que je ne sais pas les tutoyer. Il m'a dit, mais non, mais tutoie-moi, et je ne sais pas. Hein. Alors, vous voyez, tous les écrivains latino-américains hein, étaient tellement liés à la France et à Paris. J'ai connu Octavio Paz, qui avait écrit à l'époque un essai qui s'appelait « La littérature des fondations », où il disait quelque chose qui était, à ce moment-là, tout à fait vrai. La capitale de la littérature latino-américaine, c'est Paris.
Mais vous continuez parallèlement à lire d'autres écrivains, puisque, à moins que je me trompe, c'est là que vous redécouvrez Flaubert dans la correspondance. C'est là que le grand choc...
Non, j'ai découvert Flaubert pratiquement les jours que je suis arrivé ici en 1959, août ou début septembre 1959. Je me souviens, je suis acheté à une librairie qui s'appelait La Joie de Lire, qui était au Quartier Latin. J'ai acheté Madame Bovary. Et cela était, enfin, autre extraordinaire expérience de lecteur. Hein. J'ai lu les livres de suite jusqu'à la fin, hein, avec un enthousiasme que j'ai lu très peu de livres dans ma vie. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à lire Flaubert hein, d'une façon systématique. Et quoique j'admire tout Flaubert, s'il y a quelque chose de Flaubert qui m'a aidé beaucoup comme écrivain, ça a été la correspondance. J'avais gagné un prix avec mon premier livre de nouvelles et j'ai investi, n'est-ce pas, l'argent de ces prix en achetant les volumes de la correspondance de Flaubert. Ça m'a aidé énormément comme écrivain. Je crois qu'en lisant la correspondance de Flaubert, surtout la correspondance de ces 5 années qui l'a pris écrire Madame Bovary, on voit comment les talents littéraires peuvent être construits à force de discipline, des volontés, des convictions. Il n'avait pas, au début, ses talents. Quand il a commencé à écrire, il était un écrivain sans voix propre. Il était un reflet, n'est-ce pas, de ce qu'il lisait. Il était bavard. La pire chose qui peut être un écrivain.
Hein. Il y a deux correspondances tout à fait étonnantes
Mais
de Flaubert.
Après, il a décidé, n'est-ce pas, de faire du roman un objet artistique. Et il s'est mis avec un acharnement hein, tel que, petit à petit, les talents et même le génie est apparu. Alors, pour un écrivain qui commence, je crois que cet exemple, comment, si le talent n'est pas naturel, peut être construit, hein, est, je crois, très, très, très encourageant. Alors, c'est pour ça que j'ai dit que je dois énormément à la correspondance de Flaubert comme écrivain.
On s'aperçoit de cela très bien dans les deux correspondances entre Flaubert et Maupassant, et Flaubert et Turgenev. ce travail comme ça perpétuel de l'écrivain qui reste toujours à faire, qui veut toujours aller plus loin.
Tout à fait. Oui, ce qui est extraordinaire en Flaubert, c'est que il a fait du roman quelque chose que jusqu'alors seulement paraissait possible en poésie. Hein. Poésie était le genre artistique, le genre où on osait, n'est-ce pas, désirer l'absolu, hein, la perfection, les chefs-d'œuvre. Hein. Mais là, le roman était un genre où les romanciers même hein, reconnaissaient l'imperfection. Alors, Flaubert a voulu faire du roman quelque chose semblable, n'est-ce pas, à la poésie. Hein. Un objet artistique qui avait la vocation de la perfection absolue. Et c'est comme ça qu'il s'est mis à écrire Madame Bovary, l'éducation sentimentale, et cette dignité que les romans atteint hein, grâce à Flaubert est quelque chose qui a changé dans une certaine façon la nature même du genre romanesque. Hein. C'est pour ça que je crois que c'est juste de dire que Flaubert a été le fondateur du roman moderne.
Flaubert, tout du moins une première partie de sa vie, a beaucoup voyagé. Lessa Malima, lui, au contraire, le grand écrivain cubain, est resté toujours dans son pays, même dans sa rue. Vous avez beaucoup vécu à l'étranger. Vous avez vécu à Paris, à Londres, à Barcelone, à Jérusalem, à Berlin. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Est-ce que vous pensez que, pour l'écrivain, l'exil est bénéfique? Écrire loin de son pays d'origine est bénéfique?
Pour moi, sans doute, l'exil a été très, très utile. D'abord, je ne sais pas si j'aurais devenu un écrivain sans l'exil. Hein, parce que c'est pas au Pérou, c'est en Espagne, en 1958, quand je vais essayer d'être un écrivain. C'est-à-dire, je vais organiser ma vie autour de cette décision. Et c'est l'Europe qui m'a donné, je crois, la force pour un choix qui n'était pas facile, hein, surtout à l'époque pour un écrivain latino-américain. D'autre part, je crois que l'Europe m'a donné une vision, n'est-ce pas, de la littérature beaucoup plus responsable, beaucoup plus engagée que celle que j'aurais pu avoir sans sortir du Pérou, ou par les circonstances énormément difficiles, n'est-ce pas, dans laquelle il fallait écrire, plusieurs écrivains étaient inévitablement poussés à faire de la littérature une activité de deuxième ordre, hein, par les temps qu'on les consacrait, par la discipline et la persévérance, n'est-ce pas, avec laquelle on écrivait. Et je crois que dans ce sens, pour moi, l'expérience de l'exil, disons, a été formidable. Mais d'autre part, c'est grâce à l'exil que j'ai pu écrire, c'est grâce à l'exil que j'ai trouvé des éditeurs, que j'ai pu devenir, disons, un écrivain à part entière.
Enfin, si vous voulez, par exil, je ne sais pas si le mot est très bien choisi, d'ailleurs. Je voulais surtout parler d'une distance par rapport à sa langue. Goiti Solo, qui, par exemple, se promène entre Paris et Marrakech, me dit souvent cette distance par rapport à la langue espagnole, mais complètement nécessaire. Je prends du recul en écrivant à Paris ou en écrivant à Marrakech. Je suis à distance de ma propre langue.
Je crois que vivre dans un milieu linguistique différent à la langue dans laquelle on écrit a des avantages et a des périls. Les périls d'abord. On peut perdre contact avec la langue vivante, hein, avec la langue de la rue, hein, celle qui est dans un état permanent d'évolution et on peut rester figé, n'est-ce pas, dans une langue qui devient obsolète et périmée. Ça, c'est un danger. Hein? La langue peut s'appauvrir, n'est-ce pas, si on ne l'utilise pas pour la communication continuelle, permanente. Mais d'autre part, hein, il y a des avantages. Je crois que la relation avec la langue de soi-même, quand on vit dans un monde linguistique différent, est beaucoup plus riche. On devient beaucoup plus conscient des nuances, des différences entre sa propre langue et les autres. Et ça vous permet d'utiliser votre propre langue d'une façon plus inventive et plus fonctionnelle même. Hein. Que si on est, disons, oublié dans sa propre langue, c'est ce qui arrive quand vous n'avez pas cette permanente confrontation. Moi, je crois que ça m'a beaucoup servi, hein, d'habiter en France, d'habiter en Angleterre ou aux États-Unis. Je crois que je n'ai jamais perdu vraiment les contacts avec ma langue, parce que même en France, en Angleterre, j'avais toujours autour de moi des gens qui étaient des langues espagnoles. Mais en 1974, quand je suis rentré au Pérou, une des raisons pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que j'avais, à ce moment-là, eu peur, soudain, peur de perdre ce contact avec l'espagnol qu'on parle au Pérou, que c'est l'espagnol que j'utilise pour écrire. C'est cet sentiment qui m'a poussé à rentrer au Pérou.
Quelle est votre méthode de travail? Fuentes est quelqu'un, lui, de très organisé. Hemingway, vous le saviez sans doute, laissait toujours une phrase inachevée pour reprendre plus facilement la narration le lendemain. Giono lisait quelques pages avant de s'endormir pour que le travail commence durant le sommeil. Alors vous, Mario Vargas Llosa, quelle est votre technique d'écriture?
Moi, je suis très discipliné. Je travaille avec horaire. Ça fait déjà plusieurs années que je suis la même routine. Je me lève de plutôt tôt. Je lis les journaux. Ça, c'est quelque chose que je dois faire pour commencer le jour. Mais immédiatement après, je commence à écrire. Et les premières heures du jour sont toujours les plus créatives. Ça, je l'ai fait chez moi jusqu'à 1h30 ou 2h de l'après-midi. Et après, je vais à la bibliothèque, au British Museum, et je travaille là, à la bibliothèque, jusqu'à 6h ou 7h du soir. J'écris les matins et l'après-midi, je corrige, je prends des notes, je lis, je prépare le travail pour les lendemains. Et c'est ça ma routine de lundi à samedi. Et le dimanche, j'écris des articles.
On dit que vous êtes un perfectionniste. On raconte que pour la publication de La Ville et les Chiens, il a fallu attendre 15 mois avant que le livre ne puisse paraître, parce que vous supprimiez 8 lignes de texte ici, en ajoutiez 15 ailleurs. On raconte aussi que la Casa Verde, la Maison Verte, la nécessité d'interminables retouches de détails. Alors, est-ce vrai? Est-ce faux?
Non, c'est vrai que je corrige beaucoup. Vous savez, j'ai dit une fois, mais, et je crois que c'est tout à fait ce que je sens. Ce que j'aime, ce n'est pas tellement écrire comme réécrire. Réécrire, pour moi, est quelque chose qui m'enthousiasme, que j'ai fait avec beaucoup de plaisir. Je ne m'ennuie jamais quand je corrige. Je travaille avec beaucoup d'assurance. Tandis que les brouillons d'un livre est quelque chose de très angoissant pour moi. Hein. Ça me coûte beaucoup de travail. Je me sens très insécure. Mais ça change dès que j'ai cette brouillon, hein, cette première version. Hein. À partir de là, je corrige et c'est pour moi la partie la plus agréable du travail littéraire. Ce qui s'est passé avec La Ville et les Chiens, d'ailleurs, c'était pas... Oui, le livre s'est arrêté une année, mais d'abord, il a eu des problèmes avec la censure espagnole. Il a fallu que l'éditeur Carlos Barral, un poète aussi espagnol, fasse des démarches multiples pour passer la barrière de la censure, qui à l'époque était assez dure en Espagne encore. Mais après, un correcteur de preuves de la maison d'édition, Saiz Barral, a changé mon texte. Toutes les mots, enfin, tous les américanismes, les péruvianismes qu'il a trouvés, qu'il ne comprenait pas, alors il les a changés par des mots, disons, plus orthodoxes. Alors, quand j'ai reçu ces épreuves, je ne comprenais pas. Mon texte avait souffert une métamorphose, mais incroyable, c'était même grotesque, parce que, comme il ne comprenait pas, n'est-ce pas, cette correcteur, les mots, enfin, les péruvianismes, les localismes, non? Alors, il les changeait un peu à hasard, et ça devenait une espèce de, parfois, des pataphysiques. Alors, c'est pour ça qu'il a fallu, bien sûr, j'ai protesté, j'ai même pris un train, je suis parti à Barcelone, n'est-ce pas, fou de rage avec cette intromission. Et Carlos Barral, qui a très bien compris, enfin, a fait récomposer les textes du début, et ça, bien sûr, a délayé beaucoup la publication du livre, non?
Vous ne pensez pas que derrière ces péripéties, il y ait tout simplement peut-être un certain manque d'assurance, une très grande angoisse tout simplement de l'écrivain? Moi, je pense à certaines pages de Virginia Woolf sur sa difficulté qu'elle a à sortir le livre, à le voir publié, à le voir tout à coup matériellement devant elle. C'est une douleur bizarre, étrange. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ça chez...
Oui, je crois que tous les écrivains ont... beaucoup de difficultés, n'est-ce pas, à réaliser ce qu'il se propose, n'est-ce pas, comme écrivain. Je crois qu'on ne matérialise jamais exactement cette vision ou cette ambition, n'est-ce pas, avec lesquelles on commence à écrire un livre. C'est très difficile à expliquer parce que c'est très difficile, c'est dur, c'est un travail qui exige de la patience, de la persévérance. Mais c'est aussi un travail qui a des moments d'une intensité telle qui est comme une compensation pour toutes ces souffrances. Il ne faut pas dire que tout est angoisse et souffrance. Non, il y a des moments d'excitation, d'exaltation, d'enthousiasme extraordinaire. Quand on découvre quelque chose, quand on sent finalement que l'histoire a démarré et que les personnages ne sont plus des ombres, des silhouettes sans vie, mais qu'ils commencent à s'animer, n'est-ce pas? À ces moments-là, écrire devient quelque chose de très excitant, non? Mais c'est difficile à expliquer parce que il y a comme quelque chose d'obscène, n'est-ce pas, à montrer cette intimité. Parce que c'est un travail qui est très intime en même temps. On travaille avec une matière qui est enterrée dans la personnalité la plus secrète de chacun. Et parfois, on ne comprend pas très bien tout ce qui est en train de se passer au cours de l'écriture d'un livre. Parce qu'il y a aussi l'influence de l'inconscient, n'est-ce pas, qui est aussi très grande, non? Je n'ai jamais compris complètement comment ça se passe, cette élaboration, avec tous les facteurs qui participent, qui interviennent dans ce processus. C'est mystérieux, c'est complexe, c'est difficile, douloureux, mais aussi très intense et stimulant.
Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec ce que déclarait un jeune écrivain, Mario Vargas Llosa, il y a quelque temps? Il disait « Écrire correspond à ma nature. La vie, pour moi, s'organise en fonction de mon travail. Si je n'écrivais pas, je me ferais sauter la cervelle. »
Ah oui, j'ai souscrit entièrement ce que j'écris à ce moment-là. Je crois que c'est plus vrai maintenant encore qu'alors. Ma vie pratiquement est organisé autour de mon travail d'écrivain. Cela ne veut pas dire que que c'est seulement la littérature qui existe. Hein. Quoique j'admire énormément Flaubert, je n'aurais pas aimé avoir les gens de vie que Flaubert a eu, hein, enfermés dans une maison, même dans une chambre, hein, d'une maison complètement isolée, enfermée avec ses obsessions, ses démons, hein, l'idée d'un Proust, hein, aussi prisonnier dans une chambre, n'est-ce pas, avec sa mémoire. Non, ça ne me séduit pas du tout. J'aime beaucoup, après avoir écrit, sortir, hein, et partager un peu la vie des autres. Hein, ça. Mais je sais que la littérature est le centre, que mon travail est vraiment ce qui importe et dans une certaine façon, tout ce que j'ai fait revient à la littérature. D'une façon ou d'une autre, la littérature l'utilise. Hein. C'est nourri de tout le reste.
Vous pensez que l'écrivain choisit les sujets ou le sujet choisit l'écrivain?
Je crois que les sujets choisissent l'écrivain. C'est-à-dire, je crois qu'on écrit sur certains thèmes parce que on a vécu certaines expériences, que ce sont ces expériences-là qui s'imposent, n'est-ce pas, à l'écrivain comme thème. Bien sûr, il y a à un moment donné un choix à faire. On prend conscience de ces motivations, de ces sujets, et on décide d'écrire sur eux, mais je crois que la participation de l'inconscient, hein, de cette partie dans l'ombre de la personnalité est très importante, surtout dans les choix du sujet, dans les choix du thème. Je crois que dans la forme, si on peut établir cette différence qui est très artificielle, je le sais, entre contenu et forme, sujet et forme, hein, mais je crois que dans la forme, la participation de la raison, hein, de la connaissance, cette partie consciente et lucide de la personnalité est beaucoup plus importante que dans les choix du thème.
Mario Vargas Llosa s'entretenait avec Gérard de Cortanze. Réalisation Jeannou Castel. Demain, troisième entretien.